Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Notre deuxième moyen, nous, de résister, au-delà du choix des livres, c'est par les événements qu'on peut organiser chez nous dans notre librairie, les rencontres d'auteurs et d'autrices, les lectures pour enfants. Je pense notamment notre premier événement, quand on a ouvert il y a 6 ans, on y a tenu. Le tout premier événement qu'on a organisé, c'était une lecture de contes pour enfants par 2 drag queens. Je voulais que ce soit clair pour on s'installe dans ce quartier-là et voilà qui on est. Ça a été un succès monstre. Par contre, je sais aussi que cette problématique-là, elle s'est posée aussi dans les bibliothèques. Il devait y avoir des lectures par ces mêmes drags en bibliothèque à Toulouse. Et par contre, ça ne s'est pas fait suite à la mobilisation d'un certain nombre d'associations ultra-réactionnaires, etc. La mairie a reculé. Nous, en librairie, à l'époque, on n'a pas été enquiquinés et heureusement. On est quand même un endroit privé, donc on fait bien ce qu'on veut chez nous. Mais c'est par ce type de rencontres d'auteurs, d'autrices ou de conférences sur tel ou tel sujet qu'on résiste à notre façon en continuant à faire circuler les idées. Même si on sait que les rencontres d'auteurs et d'autrices, c'est jamais rentable, mais au moins on s'estime investi de ce rôle-là, quoi. Donc c'est l'événement qu'on peut faire chez nous, ou comme tu le disais très justement, les événements auxquels on choisit de s'associer. Celui-ci en fait clairement partie pour son engagement citoyen, culturel, etc. Mais on est partenaire aussi de plein d'autres opérations. Par exemple, mardi prochain, il y a 2 jours, on était à la conférence Bolloré, anti-Bolloré. Dans 2 jours, on sera au Théâtre du Grand Rond, qui d'ailleurs souffre aussi des baisses culturelles, des baisses des subventions culturelles, sur la problématique des réfugiés. Donc on choisit les événements auxquels on s'associe et on est présent quand on le demande ou quand on le propose. C'est des petits exemples comme ça, mais qui font qu'on se bat à notre manière.
De la même manière, nous, on a décidé, il y a déjà cet été, mais on l'a annoncé il y a 2 semaines, de ne pas se rendre au Festival d'Angoulême pour toute l'histoire. Heureusement, quand on l'a décidé, on n'était que 5. En vrai, l'éditeur a décidé de ne pas y aller du tout, quoi qu'il se passait. Et heureusement, maintenant, tout le monde nous a suivis. Donc là, il y a un rapport de force, ça prouve qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Il y a un rapport de force qui est en notre faveur, puisqu'il y a toute l'interprofession qui va dans le bon sens sur ce sujet-là. Mais ce qui montre, en fait, je voudrais faire un parallèle donc sur les résistances. Déjà, je voulais repartir du bas, dans le sens au plus près du lecteur, ça veut dire de la librairie. À la fois, s'imaginer que, effectivement, les librairies, ce sont le lieu de résistance, pas forcément que pour le livre le plus important, du fait du prix unique du livre, donc ça c'est vraiment un sujet à défendre. Les librairies sont des lieux, des librairies indépendantes, sont des lieux avec un maillage territorial vraiment fort, donc partout sur le territoire, on a un pays qui est assez exceptionnel pour ça, notamment du fait de la loi Langue. Ce sont des entreprises privées, sont pas trop assujetties aux aides, aux subventions, ce qui fait qu'en cas de RN au pouvoir, contrairement à des salles de concert, contrairement à des lieux plus institutionnels d'art, ça sera sûrement des lieux de résistance, les librairies, pour ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et de remonter comme ça, donc si la librairie tient, en fait, il y a tout l'écosystème du livre qui peut tenir. Et je voulais reparler des auteurs et du statut des auteurs. Alors déjà, l'histoire d'Angoulême montre que quand les auteurs s'associent et disent tous d'une voix, d'une seule, que ce soit des gros auteurs ou des petits, là on veut plus de ça, ça veut dire qu'en fait on voit le rapport de force. On disait il n'y a pas de festival sans auteur, et bien là Angoulême on l'a prouvé, puisque les gros éditeurs qui pourtant ont payé des milliers, des dizaines de milliers d'euros de stands, ils ne peuvent pas se faire rembourser pour 2026, les gros éditeurs sont obligés de boycotter quand même. Alors ils ont loué des chambres d'hôtel et tout ça, c'est du jamais vu qui fasse ça, on s'y attendait pas, hein, j'avoue, mais ça prouve que quand même en s'organisant ça fonctionne, et ça c'est super. Et il y a une autre chose par rapport aux auteurs, c'est qu'il faut savoir que contrairement au spectacle vivant, au cinéma, etc., les artistes auteurs n'ont pas de statut. Savoir qu'ils cotisent. Il y a le scandale de la GSA où d'ailleurs ils ont cotisé, ils n'ont même rien, ils n'auront pas de retraite. Mais au-delà de ça, ils n'ont rien du tout. Ils n'ont surtout pas la continuité de revenus. Et actuellement, il y a des syndicats d'auteurs, dont je ne fais pas partie, hein, je ne fais pas de la retape pour eux, mais c'est vraiment parce qu'il y a ça en ce moment. Ça passe au Sénat, là, ces jours-ci, sur une continuité de revenus, donc quelque chose d'analogue à l'intermittence pour les auteurs, puisque quand on écrit un livre, on peut juste compter sur les droits d'auteur qu'on aura d'un livre précédent, et c'est tout, ou d'un métier à côté. Et quand on est auteur à plein temps, malheureusement, c'est un petit peu dur de tout faire, et on a besoin de la continuité de revenus. Et on en a besoin aussi pour pouvoir se départir des gros éditeurs. Parce que les gros éditeurs, le problème, ce n'est pas seulement qu'il y en a certains réactionnaires, c'est que surtout, ils maîtrisent le jeu dans la mesure où ils ont l'argent, ils ont les moyens, et ça veut dire qu'un auteur qui veut gagner sa vie, eh ben, à un moment donné, il va aller chez un gros éditeur parce qu'il aura une grosse avance. Une avance, c'est juste une avance sur les droits. Hein. Mais comme les gros éditeurs sont capables de donner beaucoup d'avance, ils sont là, bon, ben, 800 euros d'avance chez un tout petit éditeur ou 15 000 euros d'avance chez un plus gros, bon, ben, je vais chez un plus gros et on ne peut pas leur en vouloir. Mais si y avait un statut, ils pourraient décider de faire un choix plus politique. À savoir que les Virginie Despentes ou les Serge Chalandon qui sont chez Hachette, ils pourraient dire « bon, ben, moi, je vais chez quelqu'un d'autre ». Ou alors, en tout cas, des auteurs émergents qui n'ont pas, parce qu'on a évoqué ça off avant, certains sont coincés par des contrats. Mais en tout cas, le statut des auteurs est primordial. Parce que, voilà, si pas de festival sans auteur, mais en fait, pas de chaîne du livre sans auteur non plus. Donc, c'est vrai qu'il va falloir beaucoup les supporter dans ce combat-là. Et notamment aussi dans le lien avec les autres formes artistiques, parce que souvent, on les oppose, les musiciens et les auteurs, etc. Et ce n'est pas le cas en Belgique, par exemple, où il y a un statut d'artiste et c'est beaucoup plus logique. Et donc, il va falloir un petit peu les aider dans ce sens-là pour aider à faire vivre tout le secteur.
Avant de passer la parole, oui, tu as tout à fait raison. J'ose espérer que les librairies sont déjà des lieux de résistance et le seront encore plus si un jour il se passait ce qui... Voilà, ce qu'on n'espère pas. Mais elles le sont, oui, j'espère qu'elles le sont déjà. Elles le sont par nature. De toute façon, nous, on ne vend pas des patates. Et j'ai rien contre les patates. On vend des idées. Donc forcément, par nature, et le livre étant un objet politique, quel que soit son contenu, c'est un objet politique. D'ailleurs, un milliardaire plutôt ultra-catho et ultra-extrémiste le sait bien. C'est Pierre-Édouard Sterrin, qui, lui, est en train d'essayer de racheter des librairies quand elles sont en vente pour pouvoir y diffuser ses propres idées. Donc, on sait que le livre est un objet politique. Donc, les librairies, par essence, étant des lieux de transmission de valeurs, sont des lieux politiques. Mais, à l'inverse, elles aussi, elles sont quand même parfois menacées. Moi, je voulais juste souligner quand même que ces 5 dernières années, notamment, le nombre de librairies dont la vitrine se fait fracasser, où les libraires sont menacés, y compris physiquement, est en train de monter. Dans cette société qui est en train de virer, là, les libraires sont aussi les premiers, parmi les premiers à être menacés. Et là, je parle de librairies qui soit sont clairement où on fait une devanture en faveur des droits LGBT, soit on fait une vitrine sur Gaza. Voilà, dès qu'on se mobilise fortement et qu'on s'affiche, on est aussi en première ligne, quoi. Mais alors, nous, on a pour l'instant non, et heureusement, mais. Mais bon, on ne sait jamais, quoi. Nous, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a la chance d'être que nos valeurs soient en accord avec celles de notre clientèle pour l'instant. En tout cas, de celles qui franchissent les portes de notre librairie. Ça ne veut pas dire que ceux qui passent dans la rue le sont, hein, mais effectivement, on n'est pas à l'abri de ça un jour ou l'autre.
C'est arrivé à une librairie à Nantes LGBT, en plein centre-ville de Nantes. Nantes, c'est pas une ville d'extrémistes, hein, loin de là. Et à Terranova, oui, à Terranova, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Mais c'est des... Alors, ça arrive aussi chez des éditeurs, mais effectivement, la vitrine en tant que telle, c'est plutôt les librairies. Voilà, vous êtes le point de départ.
Je voudrais rapidement aborder la question de l'ingérence politique que tu as commencé à aborder tout à l'heure au sujet de l'annulation de l'électeur drague, voilà, qui a eu lieu à Toulouse il y a un peu plus d'un an. C'était voilà. Donc, c'est une question qui se pose. C'est aussi une menace sur la biodiversité dans. Pas mal d'endroits, alors depuis longtemps, mais avec la polarisation des débats, avec les tensions qui peuvent exister sur le débat politique, c'est une crainte majeure que ces ingérences politiques augmentent encore dans les bibliothèques. On a organisé une journée d'études qui s'appelait Bibliothèque quand la politique s'en mêle au mois d'avril dernier, le comité régional de l'ABF, comité régional Midi-Pyrénées, parce que la réforme des régions n'est pas passée par nous, on est toujours comité régional Midi-Pyrénées. Bibliothèque, quand la politique s'en mêle, on a fait intervenir les amis de la médiathèque de Béziers, où il se passe des choses très lourdes à vivre pour les personnels qui vivent, qui travaillent dans la médiathèque, André Malraux à Béziers. Il y a encore d'autres exemples, bon, évidemment, ça s'est passé il y a plus de 30 ans aussi, dans les années 90, quand des mairies ont été emportées par le Front National à l'époque. Je vous invite à aller sur le site de l'ABF en tapant cette recherche bibliothèque quand la politique s'en mêle. On a récupéré le témoignage d'une bibliothécaire dans une ville qu'on a anonymisée, qui est passée Rassemblement National en 2020, et qui raconte ce qu'elle a vécu sur l'imposition de certains achats, sur l'obligation de supprimer tout ce qui abordait des questions d'égalité femmes-hommes, d'antiracisme, de présentation de divers modèles familiaux, tout ce genre de choses qui étaient insupportables à l'œil de l'élu en question. Le management par la terreur, l'imposition de certains événements d'action culturelle. Bon, c'est 20 minutes de témoignages qui vont sembler caricaturaux, mais qui pourtant correspondent exactement à la réalité de ce qu'a vécu la personne. Donc, comment on résiste par rapport à ça? C'est pas évident parce que, de fait, un maire, une maire a la responsabilité des services publics qu'elle est censée mobiliser sur son territoire, et où placer le curseur? Où placer le curseur? À quel moment dire, là, ça franchit une ligne et je peux décider de désobéir? On a un devoir d'obéissance hiérarchique dans la fonction publique territoriale qui s'arrête à un moment où un ordre est manifestement illégal. C'est très difficile, au bout du compte, de rentrer en confrontation avec son élu, parce que ça veut dire qu'on va être sanctionné, ça veut dire qu'on va passer au tribunal administratif, ça veut dire que ça prend des années, ça coûte de l'argent. Si on n'est pas soutenu de la manière qu'il faudrait être soutenu par les syndicats, c'est compliqué à vivre. Donc, dans 99% des cas, ce qui se passe, c'est que les personnes s'en vont. Elles partent. Bon, donc, l'association, elle est là pour ça, les associations sont là pour ça, pour essayer de donner les clés pour avoir les bonnes réactions, pour essayer d'être dans le dialogue, et puis si jamais on n'y arrive plus à être dans le dialogue, il faut trouver d'autres solutions de confrontation. Et c'est encore une fois très difficile de prouver qu'un ordre est illégal. La loi Robert est censée protéger les bibliothèques de ces tentatives d'ingérence politique en consacrant par la loi le principe de pluralisme. Ce principe de pluralisme qui pourrait nous conduire à acheter des livres avec lesquels, pour lesquels nos convictions personnelles sont heurtées, convictions personnelles qu'on est censé mettre de côté. Mais bon.
Il y avait un dernier volet sur la question des jeunes lecteurs ou du jeune lectorat.
Oui, parce que comme disait Guillaume, on va peut-être parler un peu de la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est aussi l'avenir, et si la jeunesse ne lit plus, ça peut être problématique. Mais peut-être juste pour conclure sur comment on résiste et comment on peut résister. Moi, je voudrais lancer aussi peut-être un appel à tout le monde, parce que là, nous, on a exprimé notre point de vue d'acteur et d'actrice de la chaîne du livre. Maintenant, je voudrais interpeller aussi le public en disant que vos actes d'achat peuvent aussi être des actes de résistance. Acheter en librairie plutôt que sur Amazon ou même en grande surface, ça vous coûtera pas plus cher, mais vous soutenez la biodiversité, vous soutenez des valeurs, vous nourrissez aussi votre curiosité intellectuelle, donc... Chacun peut amener sa petite pierre à l'édifice aussi par l'acte d'achat. Et puis, je voudrais aussi lancer un appel peut-être aux institutions publiques. Moi, je suis mieux placée que toi pour en parler peut-être, mais on le voit, hein, ça a été signalé. Le contexte économique est tel que les collectivités, l'État, les budgets, vous les connaissez, sont plutôt à la baisse, voire très à la baisse. Le problème, c'est que la culture, c'est pas un bien comme un autre, et que souvent la culture est le premier domaine dans lequel on coupe budgétairement. Mais non, pour moi, il faut que les institutions continuent, quelles qu'elles soient, hein, quel que soit leur niveau, continuent à soutenir l'ensemble de la chaîne du livre, que ce soit les aides à la création éditoriale, que ce soit les aides aux auteurs et aux autrices, les aides à la résidence, que ce soit les librairies, même si on est loin d'être soutenu régulièrement. La précarité fait que c'est un danger aussi pour l'ensemble de cette chaîne du livre, quoi. Et puis après un appel aux professionnels, ce qu'on est en train de faire là en ce moment, peut-être essayer de se voir plus souvent entre tous ces acteurs-là pour essayer d'imaginer d'autres modèles ensemble. On sait ce que c'est que la réalité ensuite, hein, on a tous, vous, des métiers à côté de votre métier d'éditeur, on est aussi dans le jus tout le temps, mais effectivement... Faut que ce ne soit qu'un début de réflexion entre nous. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on est très investis dans notre petite librairie, dans les réseaux, soit nationaux avec le Syndicat national du livre, mais aussi, on est une des librairies fondatrices, malgré notre jeunesse, de l'Association régionale des librairies indépendantes d'Occitanie, qui s'est montée après le Covid, en fait. Et tout de suite, on a souhaité être dedans et on est assez moteur dans toutes les actions de cette association qui réfléchit à mutualiser les compétences, à se soutenir entre librairies indépendantes de toute la région pour faire en sorte qu'on tienne ensemble, quoi. Donc le collectif, tu l'as dit, mais j'y crois aussi, et ça peut être un moyen de résister, quoi. qui veut prendre la parole, voilà, sur en autogestion, on n'a pas décidé qui prenait la parole sur la jeunesse d'abord, sachant que peut-être, je peux peut-être juste dire en intro quand même que ce qui peut être assez inquiétant, c'est que des chiffres du Centre national du livre sont tombés en 2024. Une étude a été menée auprès des jeunes. Et il s'avère que les jeunes non seulement lisent de moins en moins, en deux ans le taux de jeunes qui aimaient lire entre 7 et 19 ans a baissé. Je vais pas donner tous les chiffres, mais il y a une très grosse étude que voilà qui est disponible hein, sur internet auprès du Centre national du livre et les pratiques des jeunes. Voilà, un jeune sur de 16 à 19 ans sur 3 ne lit plus du tout dans le cadre de ses loisirs. Quotidiennement, les jeunes qui lisent ne passent que 19 minutes par jour à lire, alors qu'ils passent plus de 3 heures sur les écrans. Que quand ils sont sur la lecture, ils font aussi des écrans en parallèle. Ces 19 minutes, ils font plusieurs choses en même temps. Encore les petits, 7, 8, 9, 10 ans, ça lit encore. En revanche, quand on interroge des jeunes ados, il y en a très peu maintenant qui estiment lire par plaisir. Donc tous ces chiffres-là, je ne vais pas les citer, les balayer, mais disons qu'on est parti de ce constat-là aussi. Et si on veut parler de la société de demain, il faut avoir ça en tête aujourd'hui, c'est que les jeunes lisent de moins en moins. Que peut-on faire ensemble ?
Moi, je peux donner deux exemples concrets dans mon collège de choses que j'ai vécues et qui sont donc mon quotidien. C'est une chose très belle et une chose, on va dire, problématique, et qui sont pour moi ma réalité. Alors, dans mon collège, j'anime le club lecture, je co-anime le club podcast et j'anime le club Jeunes Ambassadeurs de la Culture. Je n'ai eu aucun problème pour avoir des participants à ces clubs. C'est-à-dire que j'ai proposé. Et hop, ils se sont inscrits. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui existe. C'est juste là, le terreau est là. Et la dernière fois que j'ai fait club lecture, là, par exemple, je sais que j'ai club mardi, je m'en réjouis à l'avance, je sais que ça va être un plaisir. Et la dernière fois que j'ai fait club, les élèves, on commence toujours par une demi-heure où chacun ou ceux qui veulent présentent des bouquins aux autres et ils doivent faire un petit résumé du bouquin. On apprend à s'arrêter au bon moment pour donner envie aux autres de lire et on apprend à exprimer ses sentiments parce qu'évidemment moi j'ai des élèves de 11 et 12 ans donc on va pas être dans de la réflexion de thésard, d'universitaire donc on est vraiment dans la sensation, le sentiment mais on apprend quand même à mettre des mots sur pourquoi on a aimé tel ou tel livre, pourquoi on le recommande aux autres et la dernière fois j'ai eu la surprise, c'est pas absolument pas moi qui ai guidé ça, d'avoir des gamins qui ont discuté entre eux de s'ils préféraient les romans qui sont racontés avec « je » ou s'ils préféraient les romans qui sont racontés avec « il ». C'est les mots qu'ils ont employés. Ça, il y a des thèses qui sont faites sur ça quand même. Hein, voilà. Et eux, ils sont partis très naturellement là-dessus. C'était très fluide. Et j'étais assise sur le canapé à les regarder et je me disais c'est merveilleux. voilà, donc ça c'est une part de ma réalité. Une autre part c'est que l'an dernier premier conseil d'administration de cet établissement je ne faisais pas partie de cette réunion et le lendemain j'entre en salle des profs et quand j'entre, au lieu de voir les sourires habituels, et voilà quoi, enfin la normalité, tout le monde a un visage fermé. Et je les regarde, et je me dis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a ? Et ils me disent, tu as vu la chef ? La chef est venue te parler ? Et je dis, ben non, pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? Donc, je vais vous passer les détails, mais effectivement, notre chef est venu me parler une heure plus tard. Elle n'avait pas eu le temps de venir avant. C'est pour ça que j'ai été prévenue par les collègues. En conseil d'administration, papa s'était plaint de ce qu'il y avait au CDI. Or, l'établissement venait d'ouvrir. C'est-à-dire qu'il est tout neuf. Il venait d'ouvrir. Donc, les portes du CDI, elles étaient ouvertes. J'accueillais des élèves. Mais pour l'instant, il n'y avait pas de livres. Donc, qu'est-ce que c'était que cette histoire? Comment pourrait-on dire on se plaint de ce qu'il y a au CDI alors que non, physiquement, il n'y avait rien pour l'instant. La commande avait été passée au chameau sauvage, mais voilà, ça ne se fait pas tout de suite. On était au début de l'année. Donc, qu'est-ce que c'était que cette histoire abracadabrantesque, comme disait je ne sais plus qui? Voilà, Chirac. Et donc, la chef est venue me voir. Alors, super, hein, très respectueuse, pas du tout inquisitrice et tout ça. Elle me dit, voilà, je suis désolée, je viens vers vous, je viens vous dire ça, et voilà ce qui s'est passé hier en conseil d'administration. Elle me raconte, donc, il y a un doute sur ce qui est au CDI, et j'en viens à comprendre que ce serait une histoire sexuelle, c'est-à-dire qu'il y aurait un bouquin qui parlerait de sexe au CDI et qui serait... pas approprié. Et je lui dis, écoutez, j'ai un début de commande qui est arrivé, qui est dans la réserve, mais rien n'a été mis en rayon. Ce qu'on va faire, c'est que je vais tout vous sortir de ce qui est en réserve, mais les élèves ne l'ont pas vu. Donc, je ne sais pas d'où vient le problème. Et donc, je lui pose tous les livres sur mon bureau. D'ailleurs, ça, après, quand mes collègues l'ont appris, ils étaient outrés. Pourquoi tu as montré, tu n'avais pas à montrer, tu n'avais pas à te justifier. J'ai dit non, mais on est collègues aussi avec notre chef. Donc, on est solidaires aussi des problèmes qu'elle peut avoir. Donc, bien sûr que je vais lui montrer, surtout qu'en plus, je ne voyais pas où était le problème. Donc, je préférais largement tout mettre sur la table. On se met à feuilleter ensemble et tout ça. Ça devient une discussion très, très rigolote entre nous où, à un moment, il y avait un bouquin où elle dit, bon, à part ce bouquin où il y a trois zizi, je ne vois pas où il pourrait y avoir de problème. Donc, et on se met à rigoler que, voilà, on a compté les zizi ce matin, quoi. Voilà, ça fait partie de notre boulot ce matin, compter les zizi. Voilà. Et en fait, on s'est aperçu après que, non, c'était une rumeur, un malentendu. Oui, voilà. Qui était parti du fait que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'an dernier, le Goncourt des lycéens, les lycéens ont donc donné leur Goncourt à Rebecca Alighieri pour un bouquin qui, après, il se trouve qu'il y avait des scènes très sexuelles entre jeunes adultes, mais bon, ça a été élu par des lycéens, donc ce qui fait que le bouquin a été acheté comme Goncourt des lycéens dans des tas de lycées. Et parce que un papa du conseil d'administration de mon collège avait entendu parler de cette histoire, ça s'est transformé en qu'est-ce qu'il pourrait y avoir actuellement dans le collège qui, en fait, serait problématique. Donc, dans les faits, ce n'était pas ce que j'avais, du tout. Ça partait de là. Mais vous comprenez bien qu'aujourd'hui, à partir d'une rumeur, il peut y avoir un fou ou une folle qui entre dans un établissement scolaire pour tuer, dans l'idée de tuer le documentaliste à coups de couteau, parce que, soi-disant, il aurait quelque chose, alors qu'en fait, en l'occurrence, pauvre documentaliste n'a que trois zizi, donc je le dis, dans ses livres. Et chose, je ne sais pas si on peut dire encore plus terrible, mais c'est-à-dire que le fou, la folle qui pénètre, peut venir pour tuer le ou la documentaliste et en chemin est arrêté par quelqu'un d'autre et tue cette personne à la place. Enfin, on sait que tout ça est vrai. Donc, on en revient aussi à des problèmes aussi d'autocensure, c'est-à-dire que je me sens responsable aussi de mes collègues dans mes choix, dans ce que je fais. Je ne veux poser de problème à personne. Je ne veux pas poser de problème à une chef qui, dans cette situation, s'est comportée vraiment hyper réglo, puisqu'elle a dit au papa, il n'est pas question que les parents viennent voir ce qu'il y a au CDI, parce que le CDI est tenu par quelqu'un qui est un professionnel et qui choisit les livres en sachant qui est son public et ce qu'il doit faire. Donc elle a été hyper claire face aux parents d'élèves et elle a été très bien avec moi en venant me voir et pas en me convoquant. Ça peut être horrible, hein, ça peut être hiérarchiquement me convoquer dans le bureau, inspection, etc. et tout, pas du tout. Elle a réagi humainement en venant me voir. Et donc, j'ai réagi humainement aussi en lui montrant tout ce qui, pour l'instant, avait été acheté. Mais tout ça pour dire que c'est ça la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui par rapport à la jeunesse. C'est-à-dire que moi, mardi, je vais avoir des gamins super avec qui on va parler bouquins et qui vont être ravis de faire le masque et la plume du collège. Parce que c'est ça aussi, c'est des élèves à qui j'ai passé des extraits du masque et la plume pour leur apprendre ce que c'était que critique de cinéma, critique littéraire. Parce que pour eux, le mot critique était un mot très négatif. Donc je leur ai dit non, c'est un métier. Et quand on fait ce métier, en fait, d'abord on est payé pour ça, puisque c'est un métier, et on fait des études de journalisme, on fait des études littéraires, voilà comment on y arrive, etc. Donc on a étudié, entre guillemets, des extraits du Masque et la Plume pour voir comment ils parlent entre eux de bouquins. Donc c'est super marrant, en fait. Je veux dire, c'est super marrant et c'est super sérieux. Du coup, ils essaient de faire comme on fait au Masque et la Plume. Voilà. Donc c'est ma réalité. Et l'autre réalité, c'est aussi que je travaille dans un endroit qui est très, très beau. Vraiment, le CDI dans lequel je travaille est absolument magnifique. C'est des grandes baies vitrées qui donnent sur les arbres. C'est la nature. Ça veut dire aussi que ces grandes baies vitrées, s'il y a intrusion, je n'ai pas de possibilité de me protéger physiquement et de protéger mes élèves. On doit tous rentrer dans la petite réserve dont je vous parlais. Je ne sais pas si c'est possible. Il y a des exercices intrusion pendant lesquels on fait ça. Mais dans la réalité, si un jour ça arrive, si c'est un couteau, la porte résiste. Si c'est une Kalachnikov, la porte ne résiste pas. Voilà, c'est tout ça, la réalité face à la jeunesse avec laquelle je suis tous les jours.
Même audio, une mémoire sonore.
Juste pour rebondir aussi par rapport à ça, moi j'ai des lycéens, donc c'est des élèves qui sont plus en autonomie, mais mine de rien, enfin, avec l'arrivée de l'IA notamment, où enfin, ça nous a posé quand même quelques problèmes, notamment de rédaction, parce qu'il y a, enfin, on a parlé du côté lecture, mais il y a aussi le côté écriture, hein, c'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai de plus en plus d'élèves qui se passent allègrement de rédiger, donc enfin bon, on a. Normalement, les devoirs sont plus donnés, puisqu'on parle par l'éducation, là, les devoirs, on n'est plus censé donner des devoirs à la maison, mais enfin, dès le collège, même avant. Mais bon, dans certains cas, les programmes étant tellement lourds, ça permet d'avancer un peu. Bref, quoi qu'il en soit, là, il y a quand même un travail à faire aussi autour de ça suppose un peu plus de travail pour nous aussi, mais typiquement, quand il s'agit de faire des exposés, là, moi, je leur demande très clairement de 15 jours avant de m'envoyer la bibliographie à partir de laquelle ils ont travaillé. Parce que le tout Internet, je le prohibe purement et simplement, parce que si c'est pour demander à ChatGPT ou je ne sais quel IA de rédiger l'exposé qu'ils vont présenter après, noter une intelligence artificielle, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc, du coup, le fait. Alors, bon, après, charge à moi de vérifier si effectivement ils ont dans le contenu de leur exposé effectivement utilisé les ressources qu'ils m'ont précisé avoir utilisé, mais bon, il y a quand même cette espèce de retour quand même un peu à l'objet livre aussi, leur signifier que quand même, bon, voilà, il y a quand même ça qui existe et qui est bien pratique pour plein de raisons depuis longtemps. Et une incartade aussi, j'y pensais tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est une réflexion qui m'a traversé l'esprit, c'est que au final, l'objet livre est un objet commun que chacun peut s'acheter depuis assez récemment finalement, hein. Enfin, ça fait à peu près une centaine d'années au final dans un pays comme la France que l'objet livre n'est plus un objet de luxe en fait, hein. Avant il y avait les journaux dans lesquels les gens se renseignaient, etc. Mais c'est vrai que le livre à part entière, c'était pas accessible pour l'immense majorité de la population française du début du 20e par exemple, et c'est vrai qu'on, enfin, il y a une espèce de retour où en fait aujourd'hui c'est accessible à tout le monde, mais est-ce que tout le monde voilà, ça reste de plus en plus cher aussi.
Accessible notamment grâce au relais H et grâce au roman de gare, parce que ça s'est beaucoup développé comme ça, pour boucler la boucle. Est-ce que, je ne sais pas si on... Oui.
Je vais dire un mot très rapidement sur les débats qui nous traversent en bibliothèque sur cette question-là de la jeunesse. Alors, bon, encore une fois, c'est la question du choix de ce qu'on veut proposer. Donc, on essaye d'avoir des collections plus ouvertes, le plus possible, sur les thématiques qui sont abordées. Mais en bibliothèque se pose aussi la question des systèmes de classement. Vous, pour les personnes qui fréquentent les bibliothèques, vous avez déjà vu au dos des livres documentaires des chiffres qui apparaissent avec les trois lettres de l'auteur très souvent. Donc c'est le système de classement des bibliothèques qui a plus de 100 ans et dont on commence à s'émanciper seulement depuis quelques années. Dans l'espace jeunesse de la médiathèque de Blagnac, il n'y a plus de chiffres, il y a juste des mots pour dire qu'à un endroit on va trouver des livres sur les sciences, pour dire voilà. Donc on a créé ces rayonnages. Et la façon dont ce système de classement a été créé par une personne qui appartenait à son temps, donc elle était très ethnocentrée, très européano-centrée, très religio-centrée. Et pour parler de questions des enjeux contemporains, pour parler de différents modèles de famille, par exemple, pour parler d'antiracisme, pour parler, de pensée décoloniale, bref, tous ces sujets-là, c'était impossible de les intégrer au système de classement. Ils font tricher avec un système de classement qui datait d'il y a 100 ans. Donc la façon dont on classe, la façon dont on crée nos rayonnages, finalement, au bout du compte, c'est une façon de faire parler nos collections, c'est une façon d'avoir un discours sur la société dans laquelle on vit. Voilà, à la médiathèque de Blagnac, on a créé un fonds lutte sociale, on a créé un fonds antiracisme, on va créer un fonds EVAR, éducation à la vie affective et relationnelle, avec des zizi. Je ne sais pas combien il y en aura, mais on les comptera. Voilà. Évidemment, là, je me situe sur une autre question que celle de est-ce que les jeunes lisent ou pas. En tout cas, ceux qui viennent à la médiathèque, ils lisent. Et c'est plutôt la question de ce qu'on leur propose. Pour rejoindre les questions de bibliodiversité qu'on aborde depuis le début, il nous semble que la question de choix est importante et aussi la façon dont on présente ces choix-là.
On vous propose de vous laisser un petit peu la parole. Vous avez peut-être des questions par rapport à certains points qu'on a pu aborder devant vous. Auquel cas, n'hésitez pas. Je vois que Camille est prêt à se lever pour faire circuler le micro.
Parce qu'il faut apparemment parler dans le micro, absolument.
C'est ça.
Parce que c'est enregistré.
Bonjour, merci pour les échanges. Bon, c'est hyper intéressant. Il y a 3000 trucs à dire, mais peut-être sur la question de la. Finalement, dans votre panel. Il banque entre guillemets le lecteur ou la lectrice, et justement c'est pour essayer d'adopter ce point de vue là. Comment être courte en fait, est-ce que vous savez la proportion de personnes qui peut-être viennent pour consommer un livre, vous parliez le cadeau de Noël de dernière minute, etc., et les personnes qui sont sur un espèce de chemin de lecture, d'essayer de s'ouvrir au monde par le livre. Et ça m'amène aussi à la question de justement les critiques. On parlait du masque et la plume, etc., où en fait c'est pareil, c'est tout. Enfin, ça fait très très longtemps que j'ai pas écouté le masque et la plume, donc je ne veux pas dire du mal, mais on va nous parler des bouquins, du dernier bouquin qui tente d'avoir le Goncourt ou les grosses maisons d'édition. C'est comme les newsletters culturels où on la reçoit et en fait tout se passe à Paris, quoi. C'est un peu le même genre de truc. Et comment en fait on arrive à pouvoir construire son propre chemin, découvrir vraiment des maisons d'édition. Alors, si on est là, j'imagine qu'on le fait tous un peu avec nos moyens. Mais c'est vrai que, par exemple, des podcasts de qualité qui vont vraiment parler à la fois du fond et de la forme de bouquins et qui vont pas parler que des grandes maisons d'édition ou des auteurs qu'il faudrait avoir lus, etc. Enfin, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est pareil en librairie, des fois j'aimerais avoir alors ça existe plutôt dans les sciences humaines, moins peut-être en littérature, poésie ou roman, avoir des tables autour de maisons d'édition pour pouvoir découvrir un catalogue sans connaître particulièrement un livre qu'on voudrait lire, etc. et donc voilà, en fait moi je me pose plein de questions sur le chemin de lecteur. Voilà, si on fait son propre chemin, on a finalement autour de soi, on n'a pas forcément beaucoup de gens avec qui parler de nos livres, parce que les gens ont lu le dernier machin, le dernier Nothomb, etc. C'est aussi compliqué dans notre posture de dire on fait des choix, mais le chemin n'est pas forcément simple, quoi.
Oui, merci pour cette intervention. Donc, du coup, je réponds puisque vous interpellez les librairies. En tant que librairie, nous aussi, on le fait. Alors, pas régulièrement, pas sur la durée de l'année, mais on fait régulièrement des niches ou des tables consacrées, on l'a fait la dernière fois il y a un mois et quelques, à toutes les maisons d'édition indépendantes d'Occitanie qu'on avait en rayon. C'était en lien avec un autre événement qu'il y avait à Toulouse à ce moment-là, mais on a fait le choix et on l'a laissé en rayon plus longtemps que la durée de l'événement proprement dit. On le fait, voilà, ou alors ça nous arrive de faire des niches consacrées à une maison d'édition en particulier. Après, quand je parlais de durée, c'est que nous, ça a été dit avec la surproduction éditoriale, nos niches, là, on manque énormément de place dans une petite librairie comme la nôtre. Donc, au bout d'un moment, les niches, surtout en période de rentrée littéraire, quoique, et surtout au moment de Noël, elles sont vite poussées parce qu'il faut mettre sur table d'autres types d'ouvrages aussi, quoique on garde aussi des niches pour des ouvrages qu'on défend et qui trouveront toute leur place dans les cadeaux de Noël. C'est pas le sujet, mais disons qu'on est obligé de les bouger souvent, mais on en fait. Pour répondre à votre question, là, chez nous, je vais parler que de ce que je connais, dans ma petite librairie qui ne répond jamais à aucune statistique. Hein. Je préfère vous le dire, depuis 6 ans qu'on existe, quand j'entends parler des meilleures ventes au niveau national, c'est tel et tel bouquin, chez nous, pas du tout. Nos meilleures ventes, c'est les bouquins qu'on aime. Et ça répond un peu indirectement à votre question. Je parlais du Noton, moi je l'ai, mais j'en prends pas des piles de 25 comme d'autres librairies. Moi, du Noton, j'en ai 2, 3. Éventuellement, je le réassors si jamais ils sont vendus, mais je sais que le Noton, j'en vends rarement plus de 3. Alors que voilà, les bouquins que j'ai pu lire pendant l'été avant qu'ils sortent, si je les mets en avant, ils partent parce que les clients me font confiance. Je dis me, mais on est deux à tenir la librairie, hein, et on a d'ailleurs des goûts assez différents l'un et l'autre, donc à nous deux, on est en mesure de répondre aux gens. Et vous, en tant que lectrice, vous dites bah oui, comment je peux faire pour tomber sur des perles? Certaines librairies mettent des petits coups de cœur. Après, on n'a pas toujours le temps d'écrire des petits coups de cœur, mais n'hésitez pas à interpeller vos libraires, parce que j'espère que c'est le cas chez nous. Je vois Bernadette en face, qui est une de nos clientes très fidèles et qui se marre. Mais j'espère que nous, on a réussi à créer dans notre petite librairie de quartier un lien avec les gens qu'on connaît, qui nous connaissent, qui disent qu'ils n'hésitent pas à parler de leur propre goût et qu'on finit par connaître. Et donc, on sait aussi que tel bouquin pourra plaire à Bernadette, pourra plaire à Alex, pourra à Axel, etc. etc. Et on est capable de conseiller, à tel point que nous, on a certains clients et clientes qui arrivent des fois, qui regardent nos tables, qui disent « Cool, qu'est-ce que vous avez pour moi, en fait ?» Ça, c'est plutôt chouette comme relation. Donc, en tant que lecteur et lectrice aussi, si, pour découvrir des trucs, même s'il n'y a pas de niche consacrée à des thèmes ou des tels que vous les attendez, allez interpeller vos libraires ou vos bibliothécaires. J'imagine que c'est exactement la même chose, en fait.
Et du point de vue éditorial, effectivement, bon, bah, c'est la curiosité qui est le maître mot, hein, évidemment. Donc, aller dans des salons pour aller voir des éditeurs, aller discuter avec. Des fois, ils ont des petits catalogues, on en imprime, comme ça, ça donne un petit peu un panel de ce qu'on a. Et puis, du coup, il y a des salons, il y en a plein. Et comme tu disais tout à l'heure, il y a des trucs très spécialisés le week-end prochain, mais en même temps, il y a le festival BD de Colomiers, où ouais, moi, je suis en même temps. Enfin, donc, il y a vraiment plein de choses. On a de la chance, d'ailleurs, Colomiers, ça coûte 3€ l'entrée. Hein, donc, c'est la crème de la bande dessinée alternative européenne. Donc, ça vaut le coup de voir sur cette partie bande dessinée et art graphique, en tout cas. Et puis voilà, c'est vrai que dans tout ce qui est littérature militante, il y a des salons qui nous guident. Enfin, et des fois, on a un point d'entrée, un livre, et puis ça nous ouvre un catalogue en entier. Et voilà.
Moi, j'ai deux questions, alors plutôt très prosaïques. Mais la première, c'est... donc, vous avez parlé d'Editis et d'Hachette, qui sont les gens chez qui vous fournissez, finalement, physiquement, pour... est-ce que c'est comme dans la presse, c'est-à-dire est-ce que ces deux distributeurs drainent des subventions publiques comme ça peut être le cas pour la presse, pense au Arnaud ou à d'autres? Et ma deuxième question...
Je peux juste dire non, en ce qui concerne les éditeurs, il faut être éditeur indépendant, donc pas faire partie d'un groupe pour être aidé.
Voilà. D'accord, je demandais si c'était les distributeurs. D'accord, il n'y a pas de subvention publique, donc il n'y a pas de résistance possible à ce niveau-là. Et ma deuxième question, c'est spécifiquement pour les librairies, pour avoir accès à des catalogues ou découvrir, ou etc. Est-ce que vous devez nécessairement passer par des distributeurs ou est-ce que vous pouvez travailler en direct avec des éditeurs?
Les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que on ne peut pas travailler individuellement avec chacun des éditeurs. C'est pas possible en France au regard du nombre de maisons d'édition qui existent. D'où le système de la diffusion et d'où le système de la distribution. Donc, nous, en tant que librairie, pour parler très prosaïquement, on a ouvert des comptes chez tous les distributeurs. Et via ces distributeurs-là, pour certains, on a des représentants qui viennent physiquement en librairie et qui nous présentent les nouveautés à venir dans 3 à 4 mois et sur lesquels on fait nos choix, sur la base de ces catalogues-là qui nous commentent. Et il y a d'autres distributeurs qui n'envoient pas de représentants où on travaille les catalogues seuls. Donc là, charge à nous d'aller récupérer ces catalogues-là et de les travailler seuls et de ne pas oublier de les travailler parce que sinon, on ne reçoit pas les nouveautés le jour où elles sortent. Et puis, ça ne nous empêche pas, comme le disait Guillaume tout à l'heure, de travailler en direct avec certaines maisons d'édition, soit parce que La raison principale, souvent, c'est qu'elles sont proches et qu'en plus, on a envie de les soutenir. Sinon, on ne les prendrait pas. Hein. Et c'est ça que Guillaume appelait tout à l'heure le dépôt. C'est-à-dire que quand certaines maisons d'édition toulousaines ou régionales, on travaille en dépôt avec elles, c'est-à-dire qu'elles nous amènent les bouquins. Contrairement à ce qu'on fait avec les autres distributeurs, là, on ne les achète pas en avance, parce que sinon, tous les livres qu'on a en librairie, on les achète en avance. D'où les problèmes de trésorerie récurrents en librairie. Hein. C'est qu'on achète tout avant de vendre. Donc, mais avec les maisons avec lesquelles on peut travailler en direct, c'est du dépôt et ils ne nous facturent ensuite que ce qu'on a vendu. Donc c'est à la fois une situation très chouette, je pense aussi bien pour la partie éditeur, parce que du coup, vous n'avez pas, vous, les frais de diffusion et de distribution à régler. Et pour nous, on a le commentaire en direct de la maison d'édition qui vient nous présenter aussi les ouvrages, on les connaît, on les met d'autant plus facilement en avant. En revanche, administrativement, c'est très lourd, parce que si on fait ça avec tout le monde, en plus de nos relations avec les distributeurs, etc., enfin, le dépôt nous prend quand même un peu de temps, qu'on n'a jamais. Mais on fonctionne donc dans les deux cas.
Juste, diffusion et distribution sont deux choses différentes. En général, on a un diffuseur-distributeur, mais la diffusion, ça peut être simplement d'aller voir, quand on se balade en France, un libraire, parce qu'on a l'impression que ça correspond grosso modo à ce qu'on peut faire comme livre. Et donc, on va, avec le catalogue dont parlait Camille tout à l'heure, lui proposer deux choses. Mais après, la question, c'est la distribution. C'est-à-dire que la logistique qui consiste à avoir un dépôt dans lequel on va avoir toutes les centaines de bouquins de chaque maison d'édition qu'on défend, etc. Ça suppose une logistique qui est évidemment nettement plus... pénible déjà, et puis enfin voilà, c'est un métier à part entière qui est nettement plus compliqué aussi à mon sens. Et là, le problème que ça pose, c'est que à l'échelle d'une petite maison d'édition comme la nôtre, c'est que typiquement il y a des librairies comme par exemple le Bleu du Ciel, bon, qui a fermé, je sais pas si elle en voit d'être rachetée, je crois à Pamiers, ou le Cachalot de Foix, ou à Carcassonne, j'ai oublié le nom, mais il y avait une super librairie à un moment. Nous, y aller en fait pour y placer 3 bouquins. Enfin, je veux dire, alors si on y passe parce que on est en vacances là-bas et que je me balade avec un petit stock de livres, c'est une chose, mais bon, quand on commence à avoir quelques livres au catalogue, enfin, on va pas se balader avec 30-35 bouquins à chaque fois qu'on part en week-end. Donc il y a toute cette question-là matérielle qui est un peu problématique, qui fait que finalement nous on se retrouve à avoir des livres. Alors parce qu'on a une autrice, Dominique Martre, qui elle est souvent en Bretagne, donc a inondé la Bretagne de ses livres. Nous, on est resté autour de Toulouse parce que voilà, on est au Chameau Sauvage, on est à Terra Nova, Ombre Blanche, à Floury, etc., à l'autre rive, parce que concrètement, et il se trouve qu'en ce moment, moi je suis dans le Gers, donc je suis allé voir les gens des Petits Papiers, du Migou à Auch, mais c'est vrai que sinon c'est compliqué, et ça fait partie des problématiques de la chaîne du livre aussi, ça, hein, pour les éditeurs.
Oui, nous, on a fini par passer par la diffusion-distribution parce qu'au début, pareil, hein, j'ai fait tout seul. Et puis, le troisième livre que j'ai fait, j'arrivais avec des grosses valises à Paris remplies de livres. Puis, je pensais la vider au fur et à mesure de la visite des librairies. Et puis, là, il s'est dit, au fait, celui d'avant, je te le rends. Et en fait, j'en avais plus. Et là, j'ai fait, bon, il faut changer. Et donc, j'ai pris un petit diffuseur-distributeur. Et quand on a un peu changé d'échelle, on a pris un autre. Mais oui, c'est vraiment un gros enjeu. Et puis, surtout, le faire tout seul, effectivement, avec les tarifs de la poste, maintenant, c'est juste impossible. Donc, voilà. Et le dépôt, par contre, c'est vrai que c'est plus simple dans un sens. Et en même temps, ça demande beaucoup de gestion des deux côtés, hein, côté éditeur aussi. Parce qu'après, du coup, on est allé voir 50 libraires tout seul. Et on est là, à qui j'ai laissé tel livre? Voilà. Mais il ne m'a pas payé, il a fermé, lui. Bon, tant pis.
Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette causerie. Merci encore une fois à l'Espace Job. Et puis, ce fut un plaisir de vous rencontrer, de discuter avec vous et de préparer cette causerie.
Même audio, une mémoire sonore.